Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Ça manque pas d'air. Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. En 1978, Georges Liénard et Émile Servet publiaient aux éditions de la Vie ouvrière l'ouvrage tiré de leur thèse, réalisé à deux entre 71 et 74, sous le titre « Capital culturel et inégalité sociale », sous-titré « Morale de classe et destinée sociale ». On y retrouve d'emblée, dès le titre, une filiation aux travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, et notamment la reproduction publiée au début des années 70, mais aussi à ceux de Jean-Claude Chamboredon, en particulier son texte écrit en 1973 avec Jean Prévost sur le métier d'enfant, dont nous avons déjà parlé ici même dans l'épisode 54. Chamboredon fera d'ailleurs la préface avec Jean Rémy à cet ouvrage de 78. Mais à la différence de leurs éminents collègues français, leur ouvrage sera peu diffusé et en grande partie ignoré en France pendant de nombreuses décennies. Et nous souhaitions, à l'occasion de sa réédition dans la Bibliothèque idéale des sciences sociales chez ENS Éditions, à la fois rendre hommage au travail de ces deux sociologues belges concernant des questions essentielles telles que la socialisation des enfants et les rapports à l'école selon les classes sociales ou de la transmission du capital culturel entre générations, mais aussi de revenir sur leur méthode d'enquête et leur héritage pour la sociologie en général. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheurs qui ont œuvré, avec Stéphane Bonnery ou Éric Monger, à la réédition de cet ouvrage. À commencer par Frédéric Giraud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Paris-Cité, membre du CERLIS et membre associé de l'équipe Disposition, Pouvoir, Culture, Socialisation du Centre Max Weber de l'ENS de Lyon. Et vous êtes actuellement directrice donc de cette collection qui accueille cet ouvrage, la Bibliothèque idéale des sciences sociales. Et Hugues Drelance. Bonjour Hugues Drelance.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes sociologue et professeur à l'Université catholique de Louvain, membre du GIRSEF. Vous avez publié en 2022, avec Branca Catonard, un manuel, le manuel de sociologie de l'éducation aux éditions de Buck, et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique de la revue Diversité de l'IFE. Et enfin, comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Eva Roursol.
Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
Alors, à ce moment-là, que se passe-t-il lorsque ces enfants qui sont ainsi dotés de culture, d'utilisation et d'occupation de l'espace arrivent à l'école? Eh bien, étant donné les exigences de la culture scolaire en école maternelle, certains vont se trouver, et nous arrivons ça à ce que nous avons appelé la morale de classe, certains, les enfants de classe supérieure, vont se trouver souvent dans un rapport d'aisance sociale. C'est-à-dire qu'ils se sentiront, d'une certaine manière, chez eux. Ils sont habitués à utiliser des espaces de manière très différente. Tandis que les enfants de classe populaire, ouvrière, vont avoir pas nécessairement facile d'entrer tout de suite dans les exigences de cette culture maternelle et scolaire. À partir de là, il se peut qu'il y ait un certain catalogage des enfants qui se fasse, et à ce moment-là, les différences culturelles qui ont été acquises dans les différentes familles des différentes classes sociales risquent, lorsqu'elles sont confrontées aux exigences de la culture scolaire, de commencer à être en décalage, ce qui, dès le début de l'école élémentaire ou de l'école primaire, risque, alors que des différences culturelles se transforment en inégalités culturelles et en inégalités scolaires.
Alors, on vient d'entendre la voix de Georges Liénard, puisque malheureusement Émile Servet est décédé il y a quelques années, qui revenait sur justement le contenu de cet ouvrage, et on voit à travers cette intervention de quelques minutes, voilà ce qu'il convoque, morale de classe, la question de la transmission, la question des inégalités, la question du capital culturel. Alors, on va aborder toutes ces questions-là dans cette émission, mais d'abord, est-ce que vous pourriez, Hugues Drelance, Frédéric Giraud, nous présenter ces deux chercheurs belges qui ont travaillé ensemble pendant une décennie, finalement, tout au long des années 70, pour réaliser cette thèse qu'ils ont fait tous les deux. Hugues Drelance, pour commencer.
Oui, eh bien, donc, Georges Liénard et Émile Servet donc, ont fait leur thèse à l'université de Louvain, et ils ont la particularité tous les deux d'avoir un parcours un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'après... Atypique, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont un parcours universitaire et puis un parcours engagés dans la société civile, dans le monde associatif, dans le monde politique aussi, hein, puisque Georges Liénard, avant de revenir des années après sa thèse à l'Université de Louvain comme professeur, hein, il a d'abord travaillé dans le monde politique, hein, et donc voilà, il a eu ce double parcours, et d'ailleurs avant même d'avoir fait sa thèse, Georges Liénard avait travaillé comme enseignant aussi. Et puis Émile Servet, lui également, il a aussi était un petit peu dans ce parcours entre deux. Hein. Il a été professeur à l'Université de Louvain, professeur chargé de cours invité, et puis il a aussi été haut fonctionnaire au ministère de la région Wallonne. Donc voilà, donc il y a ce parcours tout à fait particulier et riche, hein, qui a pu être mis à profit par ces deux auteurs pour travailler ensemble aussi et avoir un profil finalement qui n'est pas plus tellement représenté dans l'université actuelle.
Frédéric Giraud, pour présenter ces deux auteurs, qu'est-ce que vous pourriez ajouter ?
J'ajouterais en fait que ce qui est intéressant et ce qui fait la particularité de la posture, c'est qu'elle est double. C'est une double posture qu'on a chez Émile Servet et Georges Liénard. C'est une double posture à la fois d'enquête sociologique et en partie d'intervention dans la cité, puisque ce sont deux auteurs qui sont engagés dans la formation d'adultes de catégorie populaire, qui ont un intérêt pour les questions d'éducation, qui est précisément tramé par leurs propres expériences d'enseignement. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de leur regard et la finesse de leurs analyses et de leurs observations. Donc c'est ce qu'il faut noter, avec ce qu'on a déjà évoqué, mais l'idée ici que c'est une thèse d'État qui est rédigée à quatre mains, donc c'est quelque chose qui est extrêmement rare.
Est-ce que c'est rare à l'époque ? Alors aujourd'hui, je pense que c'est plus que rare, mais est-ce que déjà à l'époque, c'est atypique ?
Alors je pense qu'à l'époque, c'est extrêmement rare aussi. Alors aujourd'hui, je pense que ça serait même totalement impensable. On voit bien déjà la difficulté qu'on a à mener des recherches avec des gros collectifs en raison de l'individualisation des carrières et des accointances, des obligations qui sont celles de la construction des CV académiques. Mais là, du coup, une thèse d'État rédigée à deux, avec une continuité de questionnement et une sociogenèse de leur propre questionnement qui est tramée par une même exigence et une même volonté de comprendre les questions d'éducation.
Oui, parce qu'on n'imagine pas, ou peut-être que ça se voit pas du tout, mais qu'il y a une répartition du travail entre deux, chacun joue un rôle et l'autre un autre, et voilà, qu'il y aurait une répartition du travail, finalement, entre eux deux.
Je pense qu'il s'agit plus d'un tressage commun et permanent des opérations de recherche sous toutes leurs formes, à la fois la collecte ethnographique, mais aussi l'écriture, avec, j'imagine, des allers-retours permanents, bienveillants de l'un vers l'autre, en disant « là, tu as écrit ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, là, tu interprètes comme ça, mais on pourrait dire ça aussi ». Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de l'ouvrage et la pertinence du cadrage sociologique de la question pour 1978, c'est précisément ce double regard et donc cette double acuité à l'époque sur des questions qui vont être ensuite travaillées par d'autres et qui sont encore aujourd'hui travaillées ou redécouvertes, en fait, notamment grâce à la reparution de l'ouvrage.
Et du coup, c'est une véritable somme si on regarde le volume qui a été édité, puisque là, chez ENS Éditions, c'est un volume de 650 pages à peu près. Donc, c'est une véritable somme. Alors, la question que... On reviendra sur le contenu, évidemment, tout à l'heure, hein, ça c'est évident, mais l'ouvrage est sorti en 2023. Pourquoi rééditer 45 ans plus tard ce livre pour le public qui s'intéresse à la recherche en éducation, Frédéric Giraud?
Alors, la réédition, elle est liée à la volonté de rendre accessible un texte qui ne l'était plus et qui s'est changé de façon assez informelle sous forme de photocopie que chacun pouvait glaner
mais il circulait
un
tout
petit
de même.
Peu comme
il
ça.
Il circulait tout de même un peu sous le manteau, mais il circulait quand même.
Alors, il circulait vraiment dans des circuits extrêmement restreints et pour refaire l'histoire, en fait, de la volonté de la Bibliothèque idéale des sciences sociales de faire reparaître cet ouvrage, c'est Stéphane Bonnery qui m'en avait parlé, en fait, lors d'un colloque d'une ANR, l'ANR qui a donné l'ouvrage Enfance de classe, et il m'avait évoqué à ce moment-là, sachant que j'étais à l'abbaye de Zès, l'existence de cet ouvrage, dont les membres du collectif prime socialisation, donc l'ANR enfance de classe, ne connaissait pas. Nous ne connaissions pas l'existence de cet ouvrage. Et donc, à aucun moment de l'opération de recherche, nous n'avions lu ou pris connaissance de cet ouvrage. Et c'est effectivement, lorsque Stéphane Monnery m'en a parlé, la rencontre de deux questionnements totalement parallèles et distants de 30 ans qui, en fait, arrivaient à la même nécessité d'aller vers de l'ethnographie, d'aller vers de...
Le côté monographique aussi, d'avoir des portraits, finalement, comme dans En face de classe, finalement, de s'attacher à au-delà de des typologies des classes, d'un portrait, finalement, sociologique d'une situation.
Oui, et d'aller vraiment précisément décrire finement classe sociale par classe sociale, et puis fraction de classe par fraction de classe, à la fois des pratiques éducatives, des représentations culturelles, des intérieurs aussi. Et c'est ce qui fait la nouveauté de l'ouvrage de Liénard et Servet, c'est précisément l'attention portée à l'ethnographie des domiciles.
Ah oui,
et
sur les espaces.
À la façon dont les pratiques culturelles et éducatives, en fait, se matérialisent, s'objectivent dans l'espace, dans les livres, dans les bibliothèques. Et du coup, voilà, l'idée que ces deux ouvrages, finalement, se ressemblaient beaucoup et on avait quasiment, avec Enfance de classe, reproduit des questionnements qui existaient déjà auparavant, dont nous n'avions pas connaissance. Et du coup, lorsque Stéphane m'en avait parlé, l'idée, c'était vraiment de dire, bon, bah, donnons au public l'accès à cet ouvrage qu'il faut faire reparaître, en fait, puisqu'il était si actuel.
Et est-ce qu'à Louvain, il y avait peut-être une proximité au moins géographique, si ce n'est historique, mais en tout cas géographique. Est-ce que l'ouvrage était connu? Est-ce qu'il circulait encore beaucoup? Est-ce que Georges Liénard et Émile Servet continuaient à partager leurs recherches tout le long de leur carrière, finalement?
Mais même à Louvain, j'ai envie de dire, il était un petit peu tombé dans les oubliettes, l'ouvrage. Il était bien entendu disponible à la bibliothèque. Et moi, je me souviens l'avoir consulté il y a des années. Mais, et j'ai eu cours avec Georges Liénard, qui était un de mes professeurs. Et donc, c'est vrai que c'est des questions qu'on abordait dans ses cours. Mais lui-même ne nous parlait pas tellement du travail qu'il avait mené dans les années 70 avec Émile Servet. Et donc, c'est vrai que voilà, c'était pas un travail qui était bien repéré, bien connu. Enfin, voilà, il fallait vraiment aller fouiller dans la bibliothèque et... Au fond, bon voilà, c'est Éric Manger qui a passé la photocopie à Stéphane Bonnery et heureusement parce qu'effectivement, voilà, ce travail était étonnamment oublié alors qu'il résonne très fortement avec tout un tas de travaux parmi les plus contemporains en sociologie de l'éducation qui partagent vraiment cette volonté de décrire de manière fine et rapprochée. Et ethnographique, le travail et les pratiques de transmission culturelle qui s'opèrent dans les familles de différents milieux sociaux. Et donc ça, c'est vraiment... voilà, au fond, on avait ce trésor caché qui dormait dans la bibliothèque de Louvain et qui avait, à l'époque, l'ouvrage avait gagné un prix. Hein, et pourtant, voilà, il avait connu une diffusion assez, assez restreinte. Et voilà, même en Belgique francophone, il était un petit peu oublié.
Avant d'arriver sur le fond, enfin là, ce que vous suggérez un petit peu, hein, à travers la méthode d'enquête et puis sur le fond de l'ouvrage et son propos, je propose qu'on écoute la chronique d'Eva Roursol pour peut-être poser les termes qu'ils utilisent, les termes du débat, autour de ce que Georges Liénard et Émile Servet ont essayé de démontrer dans leur thèse.
Bonjour Régis. Dans cette thèse, Georges Liénard et Émile Servet cherchent à mettre au jour les mécanismes de construction et de légitimation des distances entre les groupes sociaux. Et donc pour cela, ils utilisent des concepts totalisants tels que le capital, la transmission culturelle et la reproduction sociale, l'éthos d'une condition de classe ou encore les morales de classe qu'ils reprennent d'une part des travaux de Chamboré, dont et Prévost, et d'autre part d'une sociologie bourdieusienne qui est alors en pleine effervescence. Donc avec cette chronique, je vous propose de procéder à un éclaircissement de ces termes, justement. Publié 5 ans après l'article de Jean-Claude Chamboré-Don et Alain Prévost sur le métier d'enfant, et 8 ans après la reproduction et 1 an avant la distinction de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, cette thèse s'inscrit dans un moment fondamental pour la sociologie de l'éducation et de la culture. Liénard et Servet placent d'abord la notion de capital au cœur des stratégies de transmission culturelle développées par les familles. puisque pour eux, ces stratégies de transmission sont à la fois conditionnées et reproduites par l'appartenance des familles à telle ou telle classe sociale. Et la notion de capital culturel, qu'on retrouve dans le titre de leur thèse, hein, permet de comprendre comme stratégie d'accumulation et de transmission les différentes pratiques de socialisation qu'on pourrait sinon facilement imputer à la variation complètement arbitraire des styles de vie. Ils montrent par exemple que les parents de classe supérieure sont surreprésentés dans les associations de parents d'élèves, et donc par leur présence dans ces associations, à la différence des autres classes sociales, ils se constituent en groupe capable de juger l'enseignement et d'agir directement sur lui. Ce capital se transmet donc, et c'est de cette transmission, plus ou moins certaine ou réussie, hein, que dépendent les mécanismes de reproduction dont parlaient déjà Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans leur ouvrage du même nom, publié en 1970. Il faut comprendre cette reproduction moins comme la reconduction de situations complètement identiques d'une génération à l'autre que comme l'expression de la distance qui subsiste entre divers groupes sociaux au fil des générations. Ainsi, Liénard et Servet offrent ici une analyse des mécanismes de transmission de la culture qui déterminent les dispositions à l'entrée dans la scolarité des enfants ou dans leur rapport à la culture. Mais surtout, plus spécifiquement, ils prennent pour objet les stratégies de transmission culturelle propres à la période qui précède l'entrée des enfants à l'école primaire, donc antérieure et d'une certaine façon extérieure à l'école, pour ensuite faire le lien entre le patrimoine ainsi acquis et la structure sociale. Donc c'est en cela que l'éducation préscolaire et familiale apparaît déterminante, puisque déjà, il s'y joue un travail social d'imposition de normes et de valeurs, de construction de goûts, de compétences, travail qui, en retour, induit des dispositions différenciées chez les enfants à découvrir et à utiliser la culture. Cet ensemble de dispositions, justement, constitue ce qu'ils appellent l'éthos d'une condition de classe, concept qu'ils reprennent de Bourdieu, entendu comme système entier des principes implicites qui sous-tendent les pratiques. Cet éthos se traduit par des styles de vie, par des jugements, qui s'expriment sur le ton de l'évidence morale, d'un « ça va de soi », pour reprendre leurs termes, que suppose chaque classe sociale tout en portant sur des objets différents. Par exemple, ils mettent en avant une forme de rejet dans le vulgaire de ce qui n'est pas reconnu comme légitime chez les classes supérieures, une affirmation de son propre travail chez les classes moyennes et une reconnaissance des contraintes objectives comme le travail ou la domesticité chez les classes dominées. Ils font ensuite le constat que l'acquisition de ces morales de classe se met en place dès la prime enfance, et qu'on peut l'apercevoir, notamment dans les classes supérieures d'ailleurs, dans le rapport au jeu que transmettent les parents à leurs très jeunes enfants. À ce titre d'ailleurs, Jean-Claude Chamboredon et Jean Prévost, déjà dans le métier d'enfant, montraient que les lieux et les occasions de jeu sont souvent ceux où l'on apprend à travailler en jouant, où l'on joue en travaillant, et où l'on tendra à considérer le travail comme un jeu et le jeu comme un travail.
Si des différences entre les classes sociales sont favorisées dès la prime enfance, quel rôle l'école peut-elle jouer alors face aux inégalités ?
Alors, justement, Liénard et Servet montrent comment l'institution scolaire, de son côté, suppose l'acquisition, dès la prime enfance, des bonnes attitudes ou postures, qui est considérée comme telle, sans laquelle une partie des enseignants percevra l'enfant au travers de stéréotypes négatifs. Donc si l'on s'attendrait à ce que l'école puisse combler la distance entre culture d'origine et culture scolaire exigée, on s'aperçoit en fait qu'elle suppose déjà acquise une forme de culture légitime. Donc cela favorise, dans une certaine mesure, le maintien, voire l'accroissement d'inégalités entre élèves, et ce dès le plus jeune âge, autant que cela définit comment le métier de parent, pour paraphraser Chamboredon et Prévost, a des effets différenciés sur la transformation et la stabilité des pratiques éducatives. Ainsi, Georges Liénard et Émile Servet héritent de concepts qu'ils réinvestissent pour proposer une étude de la variation des formes de socialisation, y compris infantile donc, relativement à la position sociale. Le capital culturel propre à une condition fait donc l'objet d'une transmission, et ce capital suppose et induit un éthos différencié en termes de classe, c'est-à-dire une relation à la culture légitime et une disposition à la faire sienne. On peut souligner aussi que ces deux chercheurs ont été précurseurs. Par exemple, dans leur manière de fractionner les classes en sous-classes, afin d'éviter toute simplification homogénéisante. Ce faisant, ils se gardent autant d'un misérabilisme qui ne verrait que les manques produits par la domination culturelle, que, donc à l'inverse, d'une forme de sanctification d'une culture qui échouerait à voir les marques de la domination. Aussi, il travaillait déjà sur les trajectoires atypiques, c'est-à-dire celles qui dérogent des destinées sociales imputées à leur classe, qui se sont ensuite constituées en champs de recherche en sociologie de l'éducation, notamment dans les années 80.
Merci Eva pour cette chronique. Et alors, quels sont vos retours et actions à travers l'ensemble finalement de ces notions que Eva a essayé de déplier et qui sont celles finalement que mobilisent à la fois Émile Servet et Georges Liénard dans cet ouvrage? Alors on peut les égrener, ils sont dans le titre aussi, hein, d'une certaine manière, capital culturel et symbolique, la transmission culturelle. Dans le petit extrait qu'on a mis en introduction, il évoque la question de morale de classe, qui est aussi dans le titre. Voilà. Quand on balaye tous ces termes-là, est-ce que, par rapport à la chronique que vient de faire Eva Roursol, est-ce que vous vous retrouvez, enfin, est-ce que c'est un moyen finalement de bien décrire ce qu'ils ont essayé de faire dans leur ouvrage, Frédéric Giraud?
Oui, absolument. C'est effectivement on retrouve dans cette chronique l'ensemble des points qui font la particularité et, je dirais, la référence théorique que constitue cet ouvrage, puisqu'il fait travailler des notions qui vont être reprises par d'autres, exemplifiées et objectivées ensuite par d'autres chercheurs et encore actuellement des notions extrêmement importantes. Et ce qui fait l'intérêt précisément de l'ouvrage de Liénard et de Servet, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est précisément que il ne se contente pas de dire qu'il y a de la transmission culturelle, de dire qu'il y a un capital culturel inégalement partagé entre les classes sociales, mais il se donne les moyens de l'objectiver et de le rendre palpable pour les lecteurs, avec un dispositif d'enquête qui est double, un questionnaire qui est passé auprès de 80 familles dans différentes classes sociales, puis en plus d'une ethnographie au plus proche des familles, au domicile, avec des plans des domiciles, une ethnographie qui précise donc où sont les meubles, comment sont organisés les espaces parentaux et ceux des enfants au sein des appartements ou des maisons. Donc, un dispositif qualitatif extrêmement précis, détaillé et précieux, puisqu'il donne accès à la façon dont le capital culturel est objectivé dans les meubles, les bibliothèques, la présence de livres ou l'absence de livres. Mais du coup, ce type de dispositif méthodologique permet d'incarner, de voir où se niche le capital culturel. Alors peut-être que ce capital culturel ne va pas se transmettre. Évidemment, de nombreux chercheurs l'ont montré, ce n'est pas parce que les gens possèdent des livres et qu'ils les lisent forcément ou qu'ils en tirent la substantifique moelle, mais dans certaines classes sociales, l'espace est mis au service des apprentissages de l'enfant, est mis au service des pratiques éducatives, et la présence de livres, d'une certaine manière, les livres rangés dans une bibliothèque qui est celle de l'enfant, une bibliothèque qui est dans la chambre de l'enfant, ça produit certains types d'effets pour la transmission du capital culturel, l'enfant ayant à portée de main, lorsqu'il est dans son lit, tel ou tel livre, livre préféré, etc. Donc, un dispositif d'enquête qui permet d'incarner et de rendre compte des conditions de possibilité de la transmission de ce capital culturel.
Hugues Dorian, du coup, est-ce que vous vous retrouvez à travers tous ces... sur l'usage finalement de ces notions qui sont mises au travail dans la sociologie des années 60-70, et finalement ils s'approprient ce vocabulaire-là comme grille d'analyse aussi pour comprendre ces inégalités?
Oui, absolument. Je trouve que la chronique était très, 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 très bonne pour la présentation des idées principales de l'ouvrage. Et voilà, je n'ai pas énormément de choses à ajouter à tout ce qui a été dit. Peut-être mentionner qu'au fond, tout ce travail de socialisation et de transmission culturelle qui s'opère dans le quotidien des familles, comme ça a été mentionné, il est très inégalement différencié selon les classes sociales, selon les fractions de classe. Et du coup, ça a des répercussions sur la scolarité. Hein, ça a bien été dit, hein, par rapport à la manière dont ça peut conditionner, l'entrée des enfants dans l'école maternelle et primaire et l'entrée dans les apprentissages. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, pour certains enfants, la scolarité et l'entrée à l'école s'apparente à une acculturation. Hein, et donc ça, c'est tout à fait clair des enfants des milieux populaires, à l'inverse des enfants des classes plus aisés.
Oui, on parle même du fait que l'enfant qui arrive à l'école des classes supérieures est chez lui dans la classe.
C'est ça. Voilà, il y a cette idée que voilà que les enfants de ces milieux sont comme des poissons dans l'eau. Hein. Il y a un petit peu cette métaphore qu'on connaît et qui ici voilà on comprend bien pourquoi au fond cette aisance elle est pas naturelle. Hein. Cette aisance elle est le fruit d'une construction d'un travail parental. Permanent, au fond, quotidien. Il y a vraiment, au fond, aujourd'hui, on parle beaucoup de la pédagogisation des loisirs et on se rend compte à quel point, au fond, cette pédagogisation des loisirs, elle existe déjà dans les années 70. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus poussée. Hein. Il y a une forme d'hyper-parentalité, un activisme scolaire qui est beaucoup plus intense dans les classes moyennes supérieures et supérieures aujourd'hui. Mais on constate déjà quand même que, au fond, il y a cette idée de qu'on construit un certain rapport au monde et un rapport à la scolarité dans les milieux les plus aisés. Et on le voit bien dans l'ouvrage. Et donc ça, j'ai trouvé ça fort intéressant pour discuter aussi de toutes ces questions de transmission culturelle qui avaient parfois pu être présentées dans les travaux et dans les écrits de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, un peu comme une espèce de transmission osmotique, au fond. L'idée que ça se ferait
automatiquement dans une classe sociale particulière.
Oui, c'est ça. En tout cas, que dans les classes les plus aisées, il y aurait un espèce de bain culturel. On baignerait dans la culture, parce que justement, on est dans un environnement où il y a des objets culturels, où il y a des bibliothèques, où il y a des livres, mais au fond, tout ce patrimoine culturel n'opère qu'à condition qu'il soit mobilisé et qu'il soit investi de manière éducative, et notamment à travers le travail très important à effectuer par les mères de famille. Et on le voit très très bien dans l'ouvrage de Georges Liénard et Émile Servet. Et donc, voilà, je trouve que par rapport à ces questions qui sont très importantes aujourd'hui, hein, qui cherchent justement à montrer comment s'opère pratiquement et concrètement la transmission culturelle, mais en fond, on a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui avaient été posées dans ce travail précurseur. Et je pense que c'est important comme mot. Vraiment considérer que c'est un ouvrage précurseur.
Donc il y avait une autre expression capital culturel, comme vous venez de le décrire, et puis il y avait capital symbolique. Et je trouve que c'est aussi intéressant cette manière d'aborder, alors peut-être du coup c'est une manière d'être vu par les enseignants en particulier qui regardent ces familles, avec cette question de la réputation, et donc de l'étiquette, la catégorisation qu'on peut opérer malgré soi, auprès de tel élève, telle famille, et donc... Voilà, et on fait ce raccourci du « et donc » de l'inégalité, en fait, ou de la disposition à réussir ou à se scolariser facilement. Il y a aussi ce travail-là aussi qui est opéré. Hugues de Lens ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tout ce travail invisible qui s'opère dans le quotidien des familles, il se traduit dans le monde scolaire par, au fond,
un
étiquetage. Souvent, c'est-à-dire qu'il se traduit par le fait que les enfants issus de certains milieux sociaux, en particulier les plus aisés, on donne l'impression aux enseignants qu'ils sont doués puisqu'ils arrivent à rentrer facilement dans les apprentissages, puisqu'ils arrivent à s'auto-contraindre d'un point de vue aussi corporel, parce qu'à l'école, ben, il faut pouvoir rester assis, se taire pendant un temps long. Voilà, il y a tout un travail d'auto-contrainte, au fond, qui a été... socialement construit et développé dans certains univers sociaux, mais qui donne l'impression du coup aux enseignants que certains enfants sont naturellement doués pour les apprentissages et qui sont prêts en tout cas à entrer dans la scolarité. Or, tout ce travail a été préparé en amont. C'est cet amont qui est invisibilisé aux yeux des enseignants qui du coup parfois ont tendance à ne plus avoir à faire ce travail pour une partie des élèves, mais devant le faire pour les autres, ils vont catégoriser les autres comme étant plus lents, comme étant pas forcément doués, etc. Et donc, voilà, c'est aussi en comprenant tout ce travail qui s'opère dans l'institution familiale, qui est la seconde, la première, enfin, au fond, la première institution éducative, qu'on comprend comment l'institution scolaire se positionne par rapport à celle-ci et est au fond dépendante dans son fonctionnement de cette première institution.
Du coup, Frédéric Giraud, vous qui avez travaillé avec sur Enfance de classe aussi, est-ce que ce rapport-là à ce qu'ils appellent le capital symbolique, est-ce que c'est quelque chose qui se revérifie 40 ans plus tard, fait comme une permanence finalement du jeu entre ce que la famille transmet à la maison et comment l'institution accueille ses enfants selon ses modes d'éducation différenciés selon les classes sociales.
Oui, absolument, complètement. Dans Enfance de classe, le principe, c'était d'aller voir dans toutes les classes sociales et de faire des observations, notamment en classe, des enfants que l'on suivait et pour lesquels on avait fait des entretiens rapprochés et nombreux avec les deux parents. Et on s'est bien rendu compte, effectivement, que suivant les classes sociales d'appartenance de ces enfants, les points de vue des enseignants, quels que soient même les résultats, ou parfois même à l'encontre des résultats de ces enfants en grande section de maternelle, les points de vue des enseignants étaient situés socialement et situaient socialement les enfants dans leurs compétences. Je me souviens notamment d'un enfant que j'ai observé moi-même en classe, qui appartenait à une famille de classe supérieure, Maxence, et pour lequel la première chose que tout le monde m'a dit quand je suis arrivée en classe, c'est « Vous verrez, Maxence, il est extraordinaire, il compte magnifiquement bien. Vous verrez, vous allez être bluffé par ses compétences mathématiques. » C'est l'ATSEM qui, la première, m'a dit ça quand je suis arrivée en classe, puis les intervenants du périscolaire entre midi et deux venaient se chercher ou me chercher pour me montrer combien l'enfant comptait. Donc, il y avait vraiment ce savoir-là sur cet enfant qu'il s'agissait de me transmettre à moi, sociologue, qui venait l'observer. Donc, effectivement, on a bien cet état de représentation qui a des conséquences sur ce que sont capables de faire les enfants, mais aussi sur ce dont ils s'estiment capables. Et on a vraiment une répercussion des attentes et des représentations sur soi-même de ce que l'on s'autorise à faire, de ce que l'on s'autorise à dire aux autres camarades en fonction de ces représentations différenciées. Et on s'en rend compte notamment lorsqu'on étudie ce que Liénard et Servet appellent l'aisance sociale. Cette aisance sociale, elle est inégalement partagée par les enfants des différentes classes sociales et elle est éminemment structurée par les représentations des camarades, des enseignants, des parents d'élèves parfois, des parents amis de l'enfant, qui vont donner à voir aussi que tel enfant est bon en maths, tel enfant est bon en français, bon en lecture, etc. Donc on a vraiment un état des possibles qui est socialement différencié et inégalement accessible à chacun des enfants.
Alors, juste pour faire le rapprochement et poursuivre ce dialogue avec la recherche actuelle que tu relances, en quoi cet ouvrage est important pour la sociologie ou pour votre métier de sociologue dans l'exercice de la sociologie telle que vous la pratiquez? En quoi il y avait déjà des portes ouvertes que vous ne connaissiez peut-être pas, mais en tout cas qui étaient déjà précurseurs, du coup, d'une certaine manière?
Ouais, je dirais que le livre est important, enfin, il est particulièrement précieux pour comprendre, au fond, le fonctionnement de l'institution familiale et pour rentrer dans la compréhension fine et concrète des pratiques aussi différenciées de socialisation familiale et de transmission culturelle. Donc, c'est la première chose, et puis il offre un témoignage historique, hein, de la manière
dont... C'est ce que j'allais demander, que finalement, à 4, 5 décennies près, est-ce qu'on n'a pas déjà, comme souvent les ouvrages d'ethnographie, où on se retrouve finalement à avoir un état des lieux quasi historique pour nous de la société telle qu'elle pouvait exister à l'époque?
C'est ça, donc effectivement, on a là un très très beau... document qui nous donne à voir la façon dont ça se produisait il y a plus de 50 ans en Belgique, dans différentes classes sociales. Mais donc ça, c'est une première chose. Mais le livre permet aussi de mesurer aussi le chemin parcouru, puisqu'on peut le comparer aujourd'hui avec tous les travaux actuels. Et comme je le disais, le travail, il résonne fortement avec la sociologie de l'éducation qui la plus contemporaine, quoi, qui investit fortement toutes les questions, toute une partie des questions traitées dans l'ouvrage. Et donc, je dirais que de ce point de vue, l'ouvrage a gagné en intérêt, puisque à la comparaison entre milieux sociaux, qui était déjà un apport tout à fait considérable à l'époque, s'ajoute la possibilité de faire des comparaisons diachroniques et de mesurer un peu le chemin parcouru. Alors évidemment, on se rend compte que la reproduction sociale se maintient, bien sûr, mais puisque le projet d'égalisation et notamment de l'école bute toujours sur l'institution familiale et son fonctionnement, mais ça ne veut pas dire que rien n'a changé. Et au contraire, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qu'il a fallu d'ailleurs que beaucoup de choses changent pour que la reproduction se maintiennent malgré toutes les tentatives aussi de démocratisation de l'école qui se sont faites durant ces 50 dernières années. Et donc voilà, de ce point de vue-là, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais...
Et il y a aussi cette attention, peut-être, Frédéric Giraud, sur les catégories, sous-catégories, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans des grosses analyses un peu rapides, j'allais dire, mais d'être dans la finesse aussi de l'attention sur les détails, ou en tout cas, qu'est-ce qui peut distinguer et rassembler les différentes familles, typologies, etc., qu'on fait peut-être plus naturellement aujourd'hui, en évitant de catégoriser trop rapidement les situations, mais... On sent qu'il y a aussi cette attention-là au détail, j'allais dire, pour éviter, pas la stigmatisation, mais en tout cas la catégorisation, et ce que ça veut dire en termes d'essentialisation aussi derrière.
Oui, effectivement, il y a une attention aux différences entre classes sociales et à l'intérieur même des classes sociales, donc ce qu'on appelle les variations interclasses et les variations intraclasses. L'ouvrage permet vraiment de se rendre compte qu'à l'intérieur même d'une classe sociale, les pratiques éducatives, les attentes, les représentations, que ce soit celles de l'école ou de ce qu'il est bon d'enseigner ou d'apprendre à ses enfants avant l'école, ne sont pas les mêmes et se déplacent un petit peu. On change la focale, on insiste plus sur le vocabulaire, on fait plus des jeux de mots, ou on va faire un peu d'ironie avec les enfants. Et l'attention précise aux variations entre les classes sociales et entre les fractions de classe, elle permet de ne pas être impressionniste, en fait, dans la démonstration qu'il existe des différences de projets, d'attentes et de réussite ensuite éducative, mais de démontrer comment, finalement, c'est dans le détail des expériences socialisatrices répétées que se nichent les résultats inégaux ensuite.
Et du coup, voilà, pour la recherche alors, en France de classe, le livre est sorti en 2019 sous la direction de Bernard Lahire. Pour vous, aujourd'hui, en quoi cette histoire-là de Liénard-Servet à Enfance de classe, en quoi elle est porteuse de quelque chose pour la sociologie qui est en train de se faire pour aujourd'hui, pour demain? En quoi ça peut être un support, un levier pour poursuivre le travail de décryptage des inégalités sociales et scolaires?
Eh bien, je dirais que tout d'abord, si l'ouvrage est fondamental et précurseur, c'est aussi par le rappel qu'il fait de la nécessité d'enquêter au plus près. Et notamment par ethnographie au domicile des familles. Je pense qu'on pourrait y voir ne serait-ce qu'un intérêt déjà théorique ou méthodologique, en disant allez dans les familles et enquêtez. Et il y a un certain nombre de recherches qui, aujourd'hui, pour enquêter sur les familles et les réussites inégales à l'école, prennent le parti d'aller enquêter en famille et d'aller faire des plans des domiciles, des relevés des bibliothèques, aller regarder comment les parents lisent des ouvrages aux enfants, comment les parents jouent avec les enfants à des jeux dits Montessori. Et précisément là, c'est l'objectif, c'est d'aller regarder comment concrètement ça se déroule, ça se passe, les interactions entre les parents et les enfants. Donc je pense que l'un des premiers intérêts qu'il faut conserver et transmettre, notamment à nos étudiants, c'est aussi celui-là. Regarder le geste méthodologique qui est ici proposé, qui est ici préconisé et qui porte ses fruits. Et c'est vrai que dans Enfance de classe, on a également eu ce geste méthodologique d'aller dans les familles, prendre des photographies des chambres des enfants, demander aux parents comment s'organiser la vie en famille au quotidien, depuis le rangement du linge jusqu'au rangement des livres, en passant par est-ce qu'il y a des lettres aimantées sur le frigo. Voilà, tout un ensemble d'éléments qui, pris séparément, peuvent sembler peu intéressant pour étudier les questions de transmission culturelle, mais qui, en fait, bout à bout, et par la répétition des expériences qu'ils mettent en œuvre et des rapports au monde qu'ils dessinent, trament des conditions de socialisation inégales et inégalement propices, notamment à l'intériorisation par les enfants, avant même qu'ils arrivent à l'école, de ce qu'on appelle le métier d'élève. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des enfants qui arrivent à l'école déjà élèves. Et j'aurais envie de dire qu'il y a des parents qui arrivent à l'école déjà parents d'élèves, alors même que leur enfant n'a pas commencé l'école obligatoire. Et l'intérêt de l'ethnographie des familles, c'est précisément de montrer comment les mères de famille, notamment, les enfants apprennent à une certaine forme de docilité, une certaine forme d'intérêt pour des choses scolaires avant même qu'ils ne soient qualifiés de scolaires parce que ces enfants ne sont pas scolarisés et parce que ces parents n'ont pas encore d'enfants scolarisés. Mais ils ont déjà des représentations, des goûts, des attentes qui préparent ces enfants à être de très bons élèves, dociles, et parce qu'ils ont intériorisé les demandes et les exigences de la forme scolaire.
Une relance, même question sur l'aspect voilà, utile, en tout cas intéressant pour la sociologie d'aujourd'hui, pour comprendre les inégalités, encore une fois.
Pour compléter ce qu'a dit Frédéric Giraud, souligner que évidemment l'attention à la complexité et aux détails très fins des pratiques hein, et de ce qui se passe dans le quotidien des familles hein, qui peut s'observer à travers l'ethnographie. Une autre leçon à retenir, c'est quand même aussi le fait de ne pas simplement être dans une description phénoménologique hein, du réel, mais aussi d'avoir une solide base théorique, parce que malgré tout, ça a été rappelé d'ailleurs dans la chronique, il y avait cette ambition d'utiliser des concepts totalisateurs, comme le concept de capital culturel et un tas d'autres concepts, hein, les notions de structure, les notions d'habitus, d'éthos, etc. Enfin, tout l'édifice bourdieusien en grande partie qui est convoqué dans l'ouvrage. Et donc ça, c'est quand même important. C'est-à-dire, c'est aussi parce qu'il y a des notions, enfin des concepts même théoriques bien charpentés que l'ouvrage a pu aussi progresser dans la connaissance. Et donc je pense que notamment de ce point de vue-là, moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'ouvrage, c'est cet intérêt pour étudier, par exemple, enfin pour ouvrir au fond la boîte noire du capital culturel et de montrer aussi la question des liens que le capital culturel entretient avec les autres espèces de capitaux. Et de ce point de vue-là, l'ouvrage est très, très riche aussi, empiriquement, mais aussi théoriquement, pour penser la convertibilité du capital culturel et son interdépendance avec les capitaux économiques, sociaux, symboliques, etc. Et donc, je pense que ça, c'est un apport très important aussi. Et puis, je retiens aussi la richesse et l'inventivité méthodologique des auteurs, je pense qu'il faut saluer aussi, parce que bon, on a beaucoup insisté sur l'ethnographie, mais au fond l'enquête a combiné enquête aussi par questionnaire, par entretien, avec aussi des diagrammes graphiques pour synthétiser d'une manière tout à fait originale. Voilà, et tout ça est décrit en détail dans l'ouvrage, et donc je pense que voilà, cette imagination sociologique et méthodologique est aussi à retenir et à montrer en exemple à nos étudiants.
Donc avec une forme de liberté quand même, puisque la création n'est possible que si on se sent autorisé à pouvoir le faire, même si on mesure bien que c'est quasiment une décennie de travail aussi pour aboutir à l'ouvrage, ce que je crois qu'ils ont commencé au tout début des années 70-71, et que la publication c'est de 78. Donc ils ont quand même eu ce temps. Peut-être que le fait de travailler en binôme aussi était facilitateur pour pouvoir tester des choses ou inventer des choses telles qu'ils ont pu le faire, avec une curiosité méthodologique effectivement qui était peut-être vraiment possible. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui il faut réinventer ces espaces où on va essayer, tester des choses dans la recherche en sociologie ou en éducation. Je vous remercie tous les deux pour cet échange à propos de cet ouvrage. Je pense qu'on n'a pas fait le tour, mais on en a donné les grandes lignes et les apports. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration d'Eva Roursol, étudiante à l'ENS de Lyon. À la réalisation, Sébastien Boudin. Au mixage, Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Et rendez-vous en avril pour la prochaine émission. D'ici là, retrouvez ce podcast, comme tous ceux de Cas d'École, sur le site de l'IFE de l'ENS de Lyon, comme sur toutes les plateformes de podcasts disponibles.